service après-vente de la F1 vous présente le SAV d'or de la course que même le DRS n'a pas pu sauver.
Chers auditeurs, Dino,
Gigi,
j'ai envie, vous savez, j'aime défendre les causes perdues, j'aime défendre les faibles, et ce soir, j'ai envie de défendre le DRS, car oui, nous allons parler du SAV d'or de la course que même le DRS n'a pas pu sauver. Et on a dit plein de choses sur le DRS, notamment sur le fait que c'était pas très utile, finalement. Et j'ai envie de dire, faut pas être aussi méchant avec le DRS. Parce que vous savez, il y a toujours pire. Oh oui, il y a toujours pire. Sachez que Life, le magazine de photographie américain, a fait par exemple une rétrospective des inventions les plus débiles. Et je vous propose un florilège de ces inventions. Et quand vous aurez entendu ce florilège, vous ne pourrez pas dire que le DRS ne sert à rien. Car sachez qu'en 1953, on a par exemple inventé la mitraillette M3 à canon incurvé. C'est une arme donc avec un canon incurvé qui permet de faire des effets dans la balle, tu vois, pour tirer en biais en fait.
Mais ça marche. Donc,
oui, ça a marché. Mais ça tire en biais. Donc en fait, ça marche. Mais tu vises mal. Mais ça marche quand même. Hein. Il y a bien mieux. Il y a le fameux électromètre de Ron Hubbard, hein, le truc qui est utilisé hein, pour attirer les gens dans sa secte. Mais faut savoir qu'en 68, grâce à cet électromètre, il a quand même réussi à mesurer la douleur que pouvait ressentir une tomate. Car c'est bien connu, hein, les tomates souffrent.
Ah oui.
Oui. Autre invention, une grande avancée pour la femme, c'est le soutien-gorge sans bretelles, mais sans rien. Alors c'est en 1949, c'est-à-dire que c'est pas les trucs autocollants qu'il y a aujourd'hui, non, non. En fait, c'était juste un soutien-gorge, mais sans rien, donc un truc qui ne tenait rien. Alors, bien évidemment. Je pense que les femmes qui nous écoutent comprendront la débilité du truc. Mais il y a aussi des...
Mais c'est pratique pour les hommes.
C'est pratique pour les hommes. Il y a aussi des choses qui se veulent pratiques, comme le petit parapluie protège-cigarette. Donc en fait, c'est un truc où tu mets ta cigarette et il y a un petit parapluie dessus. Comme ça, même s'il pleut, eh ben, tu peux fumer ta cigarette. Dans d'autres conditions extrêmes, par exemple la nuit, eh bien, sachez qu'on a inventé les pneus luminescents. C'est un truc très utile, je pense, pour Pirelli, hein. Donc, c'est des pneus qui sont éclairés. C'est-à-dire que, en fait, ils sont servis de gomme un peu transparente, en mettant des ampoules, enfin, du néon à l'intérieur. Et donc, en pleine nuit, bah, ils éclairent comme en plein jour. Au moins, c'est pratique, hein. Si tu veux changer le pneu, s'il n'y a pas d'éclairage, il n'y a pas de souci.
Ah oui.
Alors, il y a aussi eu en 1970 le protège-maquillage pour la douche. Pratique ça, le protège-maquillage sous la douche.
Surtout que c'est vrai que le principe de la douche, c'est pas du tout de se laver.
Pas du tout, à peine. Invention qui date de 1950, comme quoi les rappeurs américains n'ont rien inventé, c'est les lunettes à store vénitien. Les fameuses lunettes avec qui font store, et ben ça existe depuis 1950.
C'est cool, en plus.
ça ne sert à rien, c'est de mauvais goût, mais ça a 60 ans. Alors pour les amoureux, il y a aussi le porte-cigarette pour deux. Voilà, donc vous êtes deux, hein, et bien ça permet de fumer deux cigarettes en même temps en étant attaché, c'est génial. Contre les délinquants, hein, vous savez, on parle beaucoup d'insécurité, hein, et bien en 1963 a été inventée la valise anti-voleur. Alors le principe, il est génial, c'est-à-dire que imagine, Dino, tu sors de chez toi, hein, et là un fourbe brigand décide de piquer ta valise. Eh bien, au moment où il va mettre sa main sur ta belle valise hein, que tu aimais tant, eh bien, en fait, le fond de la valise s'ouvre, ce qui fait que tout ce que tu as à l'intérieur tombe par terre. Donc, le voleur, il se barre avec ta valise, mais pas avec tes documents. Bon, qu'ils sont tous par terre, t'as plus de valise. Mais tu as encore tes documents, parce que le voleur, il se barre en courant. Tu vois la logique, parce que minimum, oui. Il s'arrête pas pour récupérer les... Non, il se barre en courant, mais tu gardes tes documents qui sont par terre. À noter aussi, en 1937, on a inventé la cage de bébé. Alors en fait, c'est une cage hein, qui est suspendue à l'extérieur de l'immeuble, au-dessus de par la fenêtre. Hein, donc c'est amarré à la fenêtre. Le truc, tu vois, vachement sûr... vachement intelligent, tu vois, pour les petits, qui n'ont pas du tout dû être ni stressés, ni traumatisés par ce genre d'expérience.
Non.
C'est vrai, quoi, quand t'as 2 ans, être suspendu au-dessus bon. De vide.
Aujourd'hui, ils font cuicui, mais bon.
Sinon, il y a aussi, hein, pour votre confort, si tu n'as pas la possibilité d'aller en Finlande, c'est dommage.
Oui.
Eh bien, sache qu'il existe le sauna finlandais de salon. c'est une espèce de sauna en plastique que tu mets autour de toi. Et comme ça, bah, par exemple, tu peux regarder la F1 et te faire une petite séance de sauna. C'est génial.
Ah ouais, c'est...
1929, c'est l'invention du laryngaphone. En gros, c'est un téléphone, sauf que le micro, au lieu de se mettre à la bouche, il se met sur le larynx. Donc c'est vachement bien pour tous ceux qui ont un cancer et un emphysème. Donc c'est vachement bien pour Batman.
Oui.
Hein, c'est connu. Et ça date de 1929. 1948, on a inventé la planche de surf motorisée. C'est vrai, quoi. Quelle est l'utilité de faire du surf en nageant alors que on peut mettre un moteur dessus. Dans la partie culinaire, ou plutôt médicinale, en 1959, un Américain a inventé le onegar. Alors, c'est un mot anglais. C'est la construction de deux mots. Le onegar, c'est le meilleur de deux produits. Le miel, oné, et le vinaigre, vingar. Alors, il paraît que c'était vachement bien pour se soigner. Ça devait être un super bon vomitif. Mélange de vinaigre et de miel. Alors, bizarrement, c'est pas un produit qui est très répandu aujourd'hui. On se demande pourquoi.
Bon, quoi qu'une vinaigrette au miel est très très bonne, mais... vinaigre, miel seul...
Voilà. On n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Par contre, on doit pouvoir attraper des abeilles avec ça. Toujours dans le domaine de la santé, comment avoir un cancer plus rapidement que les autres? Eh bien, grâce aux portes, 10 cigarettes. Parce qu'une cigarette, ça ne vous suffit pas. Eh bien, cramez tout votre paquet de clopes en un seul coup grâce aux portes 10 cigarettes. Ça date de 1955. Il y a aussi l'invention des six shoes en 1962. Donc, qui permettent de marcher sur l'eau comme Jésus. Plutôt qui permettent de marcher comme Jean-Claude Killy. Parce qu'en fait, t'as des espèces de skis, de gros skis aux pieds et des bâtons. Donc, en fait, tu skis sur l'eau plus que tu ne marches sur l'eau.
Waouh.
Il y a aussi les lunettes télé. Alors, les lunettes télé, ça date de 1963, c'est un peu l'ancêtre, tu sais, des casques de réalité virtuelle.
Oui.
Donc, en gros, t'as un boîtier en face des yeux, avec deux grandes antennes que t'as l'impression de ressembler à un extraterrestre, parce qu'il faut quand même capter la télé. Hein. Et la question, c'est à quoi ça sert? Parce que, comme t'as l'écran de télé, tu vois pas ce qu'il y a en face de toi. Donc, tu peux pas te déplacer.
Oui.
Donc, si tu peux pas te déplacer, autant avoir une vraie télé.
Oui, c'est vrai.
Hein. Parce que si tu te déplaces avec ce genre de télé, c'est un coup à te prendre un poteau.
C'est vrai.
Ou n'importe quoi.
Et ça, c'est une cause qui nous est très chère dans le SAV de la F1.
Eh oui. Et enfin, une invention japonaise, 1963, la 4Mew machine. Une boîte, hein, un beau parallépipède, avec dessus une tête de faux chat, qui fait miaou 10 fois par minute, avec les yeux qui s'éclairent, pour effrayer les rongeurs.
Mais c'est horrible.
L'histoire ne dit pas si ça effraie réellement les rongeurs ou si les rongeurs ne sont pas tout simplement morts de rire. Parce que c'est juste une boîte avec une tête de chat qui fait miaou, 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 miaou toutes les 6 secondes. Puisque 10 fois par minute.
Oui. Oh bravo, Chini.
Eh oui. Donc, pitié, ne dites plus jamais que le DRS ne sert à rien. Il sert. Pas tout le temps, mais il sert. Parce que des inventions à la con, il y en a eu, il y en aura. Hein. Mais au moins le DRS, de temps en temps, il sert. Mais parce que malgré tout, il y a quand même eu des courses où il n'a pas servi. Dino, peux-tu nous donner les nommés pour le titre donc du SAV d'or de la course que même le DRS n'a pas pu sauver?
Le Grand Prix d'Abu Dhabi. Le Grand Prix d'Australie. Le Grand Prix d'Italie. Le Grand Prix du Japon. Et le vainqueur est Shinji.
Hop. Le SAV d'or de la course que même le DRS n'a pas pu sauver, récompensant la course où le DRS s'est montré le plus inutile, est attribué à un grand classique.
Oui.
En même temps, Bahreïn n'était pas là. Le Grand Prix d'Abu Dhabi, 44 votes, 41,9%, devant l'Australie, 24 votes, 22,86%. L'Italie, 22 votes, 20,95%. Et le Grand Prix du Japon, 15 votes, 14,29%. J'ai envie de dire, c'est pas une surprise non plus pour Abu Dhabi. Que ce non. soit avec ou sans le DRS.
Oui, voilà.
Donc on se rappelle, hein, Abu Dhabi, ils avaient tenté donc la double zone de DRS.
Oui, avec double zone de détection.
Mais avec, voilà, avec double zone de détection. Ce qui faisait que ce que tu doublais dans la première zone, tu te refaisais doubler dans la deuxième.
Voilà.
Alors, souviens-toi, ils avaient dit en début de saison, on est prêt à faire des travaux, mais avant, on attend de voir ce que donne la course avec le DRS.
Eh ben, faites des travaux. Valérie Damido, va à Abu Dhabi.
Repeins tout en taupe et en violet. Avec des lettres en polystyrène.
Ah.
Marqué Abu Dhabi en polystyrène.
Ah, c'est tellement Abu Dhabi. Ça leur correspond bien.
Oui.
Je sais même plus pour qui j'ai voté, moi. J'ai voté pour le Japon.
Mm-hmm.
Parce que au Japon, enfin, ça fait c'est typiquement le type de circuit. Quand tu regardes le tracé, tu te dis mais pourquoi est-ce qu'ils ont besoin d'un DRS?
Enfin, voilà.
Oui, il y a besoin d'un DRS, mais de toute façon, il n'y a pas d'endroit pour le mettre. Donc encore en Australie, c'est un peu le même cas. C'est vrai que tu te dis il n'y a pas beaucoup de lignes droites. Encore, ils peuvent essayer de le mettre à la sortie de la grande courbe là, avec le grand freinage l'un des derniers virages.
Moi, je crois que j'ai mis l'Italie parce que c'est vrai qu'avec les vitesses de pointe qui sont atteintes, finalement le DRS tu gagnes pas grand chose.
En plus il y avait deux zones aussi en Italie.
Il n'y avait pas qu'une seule.
Il n'y avait pas la zone avant la parabolique et non, il y avait la zone avant Ascari et il y avait une zone dans la ligne de départ.
Et puis c'est pareil, on n'a pas vu grand chose.
Non. Bah la preuve hein, puisqu'on a on a notre ami Lewis Hamilton qui a passé 20 tours derrière Schumacher ou un truc dans le genre.
Voilà, bah oui, voilà. Tout à fait. Et bon. Button 2, mais c'est une...
Voilà, c'est ça. C'est... Même pas, Button, il a passé 100 mètres derrière Schumacher. Bon, bah, on prend quoi comme extrait, Shinji?
Oh, je pense que, ne serait-ce que sur le début d'Abu Dhabi, on a dû dire, ouais, c'était chiant et tout. C'est toujours en début d'émission qu'on balance sur le DRS, de toute façon, Richard.
C'est pas faux.
Alors, comme d'habitude, je vais commencer par cette question traditionnelle, même si, quand même, c'était un Grand Prix de merde. Donc, qu'avez-vous pensé de ce Grand Prix de merde? Non, je vais pas dire, c'est pas un Grand Prix de merde, il était juste très chiant.
Moi j'ai trouvé que le premier relais était intéressant. Bon après je me suis endormi, mais bon.
Il y a eu des moments intéressants, après voilà, enfin ça n'a pas été non plus l'une des courses les plus passionnantes, c'était un peu mieux que l'an dernier.
Ah bah écoute,
il y avait pas la dramatique de l'an dernier, donc du coup bah ça nous, moi personnellement ça m'a paru un peu moins. Puis je suis quand même frustré de l'absence de Vettel qui je pense ouais. aurait pour le coup il y aurait une vraie course, je pense qu'on y reviendra.
Ils peuvent dire merci au DRS hein. Parce que s'il n'y avait pas eu de DRS pour les dépassements...
Ceci est une alerte du service après-vente de la F1. Un animateur va émettre un drive-thru. Vous pouvez en profiter pour vous préparer un café, acheter des croissants ou encore repasser votre linge. Mais vous pouvez aussi l'écouter. On sait jamais.
Donc, mon drive-thru, c'est pour Charlie Whiting ou la FIA. Enfin, en tout cas, ceux qui décident des zones de DRS. Parce que moi, je trouvais que c'était vraiment mal réparti, parce que ça devenait évident tout de suite qu'avec les deux zones à la suite l'une de l'autre, le pilote qui passe dans la première zone allait se faire repasser dans la deuxième. Donc du coup, le dépassement était un peu nul et non avenu, et on allait se retrouver avec des dépassements encore plus artificiels que d'habitude, puisqu'ils n'auraient pas lieu.
C'est le défaut de ces doubles zones de DRS. On s'était rendu compte qu'au Canada, avec la chicane entre les deux, le mec arrivé au bout, enfin, je crois que c'est Lagos qui disait ça sur Dimanche F1, c'est, finalement, on n'a qu'une seule zone de DRS. Si tu doubles dans la première moitié, tu vas te refaire passer dans la deuxième.
Au Canada, il y avait deux zones, mais un seul chronométrage. Donc, en fait, le même pilote en profitait deux fois. C'est-à-dire qu'il doublait sur la première, et sur la deuxième, il larguait...
Voilà.
Ils en ont mis deux. Et donc, en effet, on a eu des échanges de places, et voilà.
Oh, ça a son charme, hein.
C'est clair que quand il y a deux zones, faut pas les mettre l'une à côté de l'autre. Voilà. Même s'il y a la place, mettez-en une, mais pas deux.
Non, puis surtout, je pense que là, on a clairement vu que c'est un circuit qu'on critiquait parce qu'il était pas intéressant, qu'il permettait pas des dépassements. Et là, on voit que, bah, même avec le DRS, c'est pas facile. Donc, je pense que le DRS, il a bon dos. Il faut aussi, à un moment donné, remettre en cause directement le circuit. C'est le circuit.
Là, oui, le circuit. Là, dans ce cas-là, la zone DRS était dans la zone où, naturellement, il y a plus de chances de faire des dépassements sur circuit.
Quoique, on l'a vu l'an dernier, c'est quand même très dur de faire un dépassement à cet endroit-là.
Bah sur la première ligne droite pas beaucoup, mais c'est vraiment tout au bout de la deuxième quoi. Mais sinon, oui, il y a pas grande possibilité, puisque le début justement de la première ligne droite, ça a déjà été dit, ça pourrait être une magnifique zone s'il n'y avait pas la déviation juste avant, mais ils sont obligés de la mettre parce que sinon les voitures arriveraient trop vite sur ce virage et il n'y a pas assez de place. Faut reculer la zone de dégagement de cette petite épingle.
C'est ça qui est terrible, c'est que vraiment tout le monde se dit quand on regarde, ouais, il y a quand même, c'est con cette épingle parce qu'il y a une belle portion de ligne droite avec une belle épingle au bout. La chicane, elle sert à rien. Et on va nous sortir, ah mais ouais, il n'y a pas assez de dégagement. Ben vous avez qu'à reculer l'épingle.
Et si c'est
la plus courte.
C'est quand même une grosse erreur de Tilke dès le départ, quoi. Il met une épingle et puis il met pas les dégagements derrière. Quoi.
Ouais, voilà.
C'est tout.
Oh, c'est bien, on en a mis plein la gueule au DRS, plein la gueule.
À Abu Dhabi.
À Abu Dhabi. Bon, bah, on va peut-être passer au concours.